Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine. Un pèlerinage unique de l'UNEC. Après 20 ans d'études des reliques du Christ, opérées dans son groupe COSTA, l'UNEC, Union des Nations de l'Europe chrétienne, a organisé du 12 au 19 mai 2015 un grand pèlerinage à travers 5 pays. Pour vénérer les principales reliques du précieux sang du Christ, y compris surtout le linceul de Turin. Ce pèlerinage en autocar Bourmeau comprenait 24 pèlerins de plusieurs nations, France, Allemagne, Suède, deux aumôniers, Tradition, Fraternité Saint-Pédis, ont accompagné ce groupe pour les messes, prières et méditations pendant le pèlerinage. L'abbé Philippe Peignot, France, et l'abbé Sten Sandmark, Suède. Ce voyage priant était le point culminant de 24 ans de pèlerinage UNEC, en Pologne, Géorgie, Ukraine, en Sainte-Russie, Suède, Norvège, Irlande, Rhénanie, Belgique, Turquie. Que peut-il y avoir de plus saisissant que de s'agenouiller en ces temps sombres devant les reliques du Christ, en priant, Seigneur, par votre précieux sang, délivrez-nous. Première étape, la Sainte Tunique d'Argenteuil, en France. Le jour même du départ de Paris, nous avions l'immense privilège, dans la basilique Saint-Denis à Argenteuil, qui contient depuis les temps de Charlemagne la tunique inconsutile que notre Seigneur a porté pendant sa passion et qui est, suivant les dernières études scientifiques, trempé de son précieux sang, de pouvoir prier un chemin de croix et réciter devant la relique les anciennes prières de pèlerinage, voire d'assister à une sainte messe en rite tridentin célébrée par un prêtre de l'Institut Bon Pasteur sur l'autel privilégié surmonté du reliquaire doré de la Sainte Tunique. Ces messes à cet endroit sont très rares depuis le Concile Vatican II. Il y en avait peut-être seulement 3, toutes célébrées par ce même prêtre de l'Institut du Bon Pasteur, l'abbé Billot. Dieu soit béni pour cette première grâce particulière d'un pèlerinage en tout point extraordinaire. Pour plusieurs pèlerins, membres de notre groupe Costa, c'était le point d'orgue, tant désiré depuis 20 ans de recherches, d'écrits, de conférences et de pèlerinages consacrés à cette plus grande relique de la France, la Sainte Messe de toujours, enfin sur l'autel de la Sainte Tunique de toujours. Deuxième étape, l'ampoule du Saint-Sang à Bruges, en Belgique. Le lendemain était consacré à la découverte de la relique du Saint-Sang de Bruges, apportée en 1146 par le comte de Flandre, Thierry d'Alsace, qui fut 4 fois en Terre Sainte. Elle est vénérée toutes les après-midi dans la Sainte Chapelle du Saint-Sang, au centre de la ville. Chaque pèlerin peut s'avancer et passer directement devant l'ampoule présentée par un prêtre ou une personne du conseil laïque de la paroisse, en la vénérant et même embrassant. Aucune étude scientifique n'a été faite jusqu'à présent sur cette relique, mais la ville organise chaque année, le jeudi de l'Ascension, un immense défilé en costume ancien par le centre-ville, sous l'assistance de quelques 80 000 pèlerins, représentant des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, notamment de la Passion du Christ, et mettant en exergue la relique du Saint-Sang qui y est portée solennellement en présence de l'évêque du lieu. Lors de la bénédiction finale sur la place devant la Sainte-Chapelle, les foules de pèlerins se mettent à genoux et les policiers au garde-à-vous pour recevoir les grâces de cette relique. Nous avions pu assister l'an dernier à ce grandiose événement qui a lieu chaque année le jeudi de l'Ascension, lors de notre pèlerinage en Belgique catholique 2014. mais cette année, nous devions nous contenter de la vénération en privé de cette sainte relique du précieux sang du Christ venu aux Flandres il y a presque 9 siècles et représentant aujourd'hui le plus grand trésor de la chrétienté en Belgique. Précieux sang du Christ, délivrez-nous. Troisième étape, la relique des sandales du Christ à Prüm en Allemagne. D'abord, en arrivant tard le soir à Prüm, nous avons pu assister à une conférence du journaliste catholique allemand Michael Hesemann sur le Suaire d'Oviedo en Espagne, également trempé du sang du Christ pendant son agonie et sa mise au tombeau. Il était difficile pour l'organisation de ce pèlerinage d'y intégrer aussi une visite à cette importante relique d'Oviedo. Mais grâce à M. Hesemann, nous avons pu y pérégriner au moins en esprit. Selon les nombreuses études faites par des professeurs et chercheurs des universités d'Espagne, il s'agit du suaire qui a enveloppé la tête du Christ entre la descente de la croix et la mise au tombeau, et dont saint Jean dit d'ailleurs qu'il l'a vu plier séparément du linceul dans le tombeau vide. Le lendemain, fête de l'Ascension, nous avons pu d'abord faire une belle procession, rappelant la procession des rogations avant l'Ascension, en montant avec nos bannières sur la colline Le Calvaire de Prüm. En haut de la colline, nous avons pu prier sous un magnifique soleil un chemin de croix, en suivant les très belles stations en pierre qui y furent récemment installées. Ensuite, la chapelle sur le mont du Calvaire nous a accueillis pour une sainte messe de la fête de l'Ascension, selon l'ancien rite. Puis commença, par une procession jusqu'à la basilique, à travers la ville, notre visite à la relique des sandales du Christ, conservée à Prüm depuis Pépin le Bref, fils de Charles Martel et père de Charlemagne. Celui-ci avait reçu cette relique vers l'an 760 des mains du pape Zacharie, en gage de la nouvelle alliance entre Rome et les Francs, en remplacement de l'alliance Rome-Byzance qui ne fonctionnait plus. C'est ainsi que les rois et empereurs français considéraient l'abbaye bénédictine de Prüm, où ce saint objet fut déposé, comme le centre de ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe chrétienne, ultime fondement de l'Union européenne d'aujourd'hui, qui, pour son malheur, ne veut plus rien savoir de sa pierre d'angle, notre Seigneur Jésus-Christ. La guide de la basilique, Madame Monica Roleff, habillée d'ailleurs en reine Bertrada, l'épouse de Pépin le Bref, nous a aimablement expliqué la relique et son histoire, ainsi que l'histoire de l'abbaye bénédictine avec sa vaste basilique de pèlerinage. À genoux devant le reliquaire spécialement ouvert pour notre pèlerinage, nous avons pu prier pour nos familles, l'Église et l'Europe chrétienne, notamment par la récitation de la litanie du précieux sang. Notre ami le professeur Gérard Lucotte a pu étudier cette relique depuis 5 ans, en particulier en analysant des échantillons sous un microscope à balayage électronique, et y a pu identifier des couleurs et dorures de différentes périodes, y compris antiques, des pollens et pierres de Palestine, mais aussi à l'intérieur des sandales des globules rouges et blancs de sang humain qui sont encore en étude. Notre objectif en accompagnant et soutenant ces études est de pouvoir démontrer que les grandes reliques du Christ convergent tous sous 3 aspects, leur provenance du même endroit, du même siècle et du même homme. Ceci mettra un terme aux contestations haineuses des ennemis du Christ, disant, depuis Ernest Renan, que le Christ n'a jamais existé, et mettra l'humanité entière devant la véritable question posée par ces reliques. Il ne s'agit plus de savoir si elles sont authentiques, c'est-à-dire si Jésus a vraiment vécu, Mais si cet homme qui a vécu et marché sur cette terre, Sandal, est vraiment Dieu. Ainsi, nos recherches et nos chercheurs nous amèneront vers la véritable question religieuse. Un grand merci au curé de la basilique, le père recteur Christian Müller et ses prédécesseurs, de nous avoir ouvert si grandement les portes de Prüm et surtout celles de ce précieux reliquaire. Grâce au professeur Lucotte, nous continuerons nos recherches sur cette éminente relique. Si les résultats sont concluants, nous pourrons présenter à la chrétienté pour la première fois une analyse complète du très précieux sang de notre Seigneur, ressemblant parfaitement aux autres 17 reliques du sang du Christ conservées et vénérées dans toute l'Europe. Il y aura ainsi une telle convergence de preuves qu'il sera plus difficile de ne pas croire en leur authenticité que de ne pas y croire, ouvrant ainsi la porte, si Dieu le veut, à une époque d'un grand renouvellement religieux. Quatrième étape, la relique du Saint-Sang de Weingarten en Allemagne. Après avoir parcouru diagonalement l'Allemagne, 600 km en autocar, nous arrivâmes enfin en Souabe catholique, près du lac de Constance. La tradition raconte que le soldat romain Longinus aurait récolté sous la croix plusieurs gouttes de sang de notre Seigneur mélangées à la terre de Golgotha. C'est cette relique qui est parvenue d'abord avec lui en Cappadoce, puis à Constantinople et finalement en 553 à Mantua en Italie, où elle est encore vénérée à ce jour. En 1053, deux particules en furent séparées, dont une a été offerte à l'empereur allemand Henri III, qui la céda au comte Baudouin V de Flandre. De là, elle est parvenue, au moins en partie, en 1067 à Weingarten. Il s'agit donc à Bruges et à Weingarten, probablement des parcelles de la même relique du sang du Christ de Longinus. Le jour de notre pèlerinage, le vendredi après l'Ascension, il pleuvait abondamment, ce qui n'a pas empêché 3000 cavaliers allemands de défiler en grande tenue devant la belle cathédrale baroque de la ville comme chaque année, chevauchant devant et derrière la sainte relique portée à cheval par le recteur de la basilique, puisque les moines de l'abbaye, fermée depuis 2011, qui avait le privilège de porter la relique en procession pendant des siècles, sont désormais absents. Dans la merveilleuse et vaste basilique, une messe pontificale fut célébrée devant une église comblée, avec au premier rang le premier ministre du Land Baden-Württemberg et d'autres personnalités, dont le cardinal Koch, spécialement venu du Vatican. La Missa Solemnis de Wolfgang Amadeus Mozart, avec chœur et orchestre, encadrait majestueusement cette sainte cérémonie, malheureusement en rite moderne mal adapté à ce grand jour regorgeant de traditions. Pourtant, Benoît XVI avait expressément autorisé la célébration de la messe dans le rite tridentin, notamment pour ces grandes occasions. Après ce grandiose événement, nous avons pu prier en groupe directement devant la relique encastrée dans un bel autel en marbre rose, pour y déposer avec ferveur toutes nos intentions personnelles, familiales et autres. Jamais en France on n'a entendu parler de Weingarten et de sa relique. Jamais on n'y a entendu parler des 3000 cavaliers qui défilent en son honneur une fois par an. Et nous y étions. Voilà l'Europe chrétienne qu'il faut redécouvrir et faire revivre par maintes petites et grandes initiatives, comme ce pèlerinage de Lunek. Cinquième et avant-dernière étape, le Saint Linceul de Turin. Après une traversée inoubliable des Alpes, au coucher du soleil, nous étions le lendemain, dimanche 17 mai, les premiers pèlerins pour vénérer le linceul de Turin. C'est la troisième fois que nous y sommes, après les ostensions de 2000 et 2010. Le flot des pèlerins exige qu'on ne reste que quelques minutes immédiatement devant cette plus grande relique de la chrétienté. Chaque fois, c'est le choc. Comment assimiler dans un seul instant que c'est là le linceul du Christ, trempé de son saint sang, et reflétant si mystérieusement son corps torturé et ses plaies profondes, voir sa résurrection par le fait que sa miraculeuse image sur le linceul, suivant les dernières recherches des professeurs Giulio Fanti en Italie et Oswald Scheuermann en Allemagne, ne s'explique que par une explosion nucléaire incroyablement bien régulée pendant quelques nanosecondes. Le message de cette relique est clair. Notre Seigneur fut crucifié, il est mort et il est ressuscité. Notre association est intimement liée à cette relique par le fait que notre cercle d'études Tchely avait sollicité le Saint-Père, Jean-Paul II d'abord, puis Benoît XVI, par 10 000 cartes postales envoyées sur notre initiative entre 2007 et 2010 au Vatican de toute l'Europe, demandant aux papes successifs de bien vouloir déclarer solennellement l'authenticité de cette relique. Tout récemment encore, l'écrivain Arnaud Oupinski a renouvelé vigoureusement cette demande au Saint-Père, déclarant que devant l'immense quantité de preuves apportées par la quasi-totalité des scientifiques, l'Église ne devrait plus esquiver en parlant timidement d'icônes, de symboles, etc., mais devrait courageusement annoncer au monde qu'il s'agit du linceul de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. La réaction de Benoît XVI n'était malheureusement pas celle espérée, même s'il est déclaré une nouvelle ostension pour 2010. Celle du pape François, lors de sa visite du 21 juin 2015 à Turin, fut encore moins encourageante. Lors d'une allocution aux foules des pèlerins, après une prière assise devant la relique, il a préféré parler d'écologie, d'immigration et du service des pauvres, au lieu d'annoncer le Christ à cette occasion exceptionnelle. Heureusement, nous avons trouvé au centre de Turin une belle église à nous accueillir pour notre messe de dimanche, ce qui n'était pas facile, puisque la conférence des évêques d'Italie a interdit toute messe Saint-Pie V célébrée par un prêtre de la fraternité Saint-Pie X. Mais la miséricorde et l'amour dans l'Église sont, grâce à Dieu, plus fortes que la pusillanimité, sinon pire, de ces évêques. Le soir, nous étions déjà à Chambéry, là où le linceul avait séjourné pendant 125 ans, de 1453 à 1578. Dans la Sainte Chapelle du château, nous avons pu nous rapprocher très près d'une copie conforme du linceul et regarder de près les multiples plaies du Christ et surtout sa sainte face représentée sur le tissu. Quelle empreinte ! Aucun autre visage humain peut refléter une telle divinité. Seigneur, par votre sainte face et vos saintes plaies, délivrez-nous. Sixième et dernière étape, relique du Saint-Sang du Christ à Neuvy-Saint-Sépulcre, près de Châteauroux, en France. Notre dernière station fut une découverte. Voilà, à Neuvy, une église du style octogonal si cher à Charlemagne, car reflet de l'église du tombeau du Christ à Jérusalem et de Ravenna en Italie. Il n'y a que deux églises octogonales en France, Neuvy et Ottmarsheim, Alsace, XIe siècle. Un merveilleux guide, M. Gérard Guillaume, nous explique l'histoire de cette église abbatiale de Neuvy, construite en 1050. Plus tard, en 1257, le cardinal Eudes de Châteauroux légua pendant 6 ans en Terre Sainte, au temps des croisades de Saint-Louis, a apporté la relique du Saint-Sang à Neuvy et elle n'a plus jamais quitté ce lieu, présentée aujourd'hui dans une précieuse ampoule et vénérée depuis des siècles jusqu'à ce jour par des pèlerinages et processions, en particulier chaque lundi de Pâques. Là aussi, nous avons pu célébrer la Sainte Messe dans l'Église, dans ce lieu si vénérable et si proche de l'Europe chrétienne, voire carolingienne. Les prêtres du lieu, des Africains, nous ont accueillis chaleureusement en nous disant « La tradition, mais nous aimons la tradition ». Cette messe en ce lieu saint fut un moment inoubliable pendant que notre chant grégorien remplissait les voûtes octogonales en produisant un écho inouï, presque polyphonique. Nous avons terminé ici notre beau pèlerinage en nous agenouillant devant la relique contenant l'ampoule du Saint-Sang du Christ, vénéré en ce lieu depuis 8 siècles, et après une dernière récitation de la belle litanie du précieux sang. Seigneur, par votre saint sang, délivrez-nous. Après un excellent repas d'adieu dans le restaurant Le Duché, au centre du village, nous sommes rentrés à Paris, comblés de la grâce d'avoir pu parcourir 2800 kilomètres de notre belle Europe chrétienne, le long des reliques de notre Rédempteur Jésus-Christ. C'était donc, chers auditeurs, l'actualité religieuse de cette semaine. Au revoir et à la semaine prochaine.